Chapitre 7. Histoire et mémoire des conflits. Cours. Histoire et mémoire des conflits de décolonisation. Pourquoi est-il difficile d'aboutir à une histoire et des mémoires communes des décolonisations? 1. Histoire et mémoire du point de vue des métropoles. A. Accepter la perte des territoires. Pendant plus d'un siècle, les métropoles ont fondé leur prestige sur leur possession coloniale. Lors des décolonisations, il est donc difficile pour les gouvernements, comme pour les opinions publiques, d'accepter un recul qui est souvent vu comme un déclin. Les décolonisations sont donc le plus souvent accompagnées de violences. Toutes n'ont pas été des guerres. Mais même en Inde, colonie britannique, le mouvement indépendantiste pacifiste a dû affronter une répression sévère dans la première moitié du XXe siècle. L'indépendance de l'Algérie reste la perte la plus difficile pour la France. Colonie de peuplement, les Français y sont présents depuis 1830 et ont développé un fort sentiment d'appartenance locale. En 1962, l'immense majorité d'entre eux est forcée de quitter le territoire, ce qui est vécu comme une expatriation forcée. B. La difficile articulation entre histoire et mémoire. L'histoire des décolonisations a commencé à s'écrire rapidement. En Afrique du Nord, l'historien français Charles-André Julien commence par exemple à le faire pendant la décolonisation elle-même. Pourtant, on note à cette époque l'absence d'une mémoire officielle. Un réveil de la mémoire s'observe dans les années 1980-1990. La marche pour l'égalité et contre le racisme, organisée en 1983, réunit 100 000 personnes. En 1991, des fils de harkis se révoltent autant pour souligner la dureté de leurs conditions de vie que pour obtenir une reconnaissance de l'histoire de leur père. L'enseignement de la guerre entre dans les programmes scolaires en 1983. Des historiens et historiennes plus nombreux abordent cette question. Ils travaillent sur des points sensibles comme la justice pendant la guerre, Sylvie Thénault, ou la torture, Raphaël Branche. Mais leur travail n'est pas toujours pris en compte. Le 23 février 2005, une loi mémorielle en France insiste sur les aspects positifs de la colonisation. Elle provoque un vif débat dans la société. 2. Histoire et mémoire du point de vue des anciens colonisés. A. Célébrer et commémorer la victoire. Dans les anciennes colonies, l'accès à l'indépendance est objet de fierté. Les guerres qui y conduisent sont considérées comme des guerres de libération. En Algérie, l'insurrection du 1er novembre 1954 entre dans le préambule de la Constitution comme un acte révolutionnaire. La décolonisation est présentée comme un soulèvement populaire unanime. En Algérie, le mythe du peuple uni face aux Français permet d'effacer les divisions internes au mouvement national. Une histoire officielle s'écrit qui occulte par exemple le rôle de Messali Hadj et du MNA au profit du seul FLN. L'État diffuse alors une mémoire qui héroïse les grands hommes issus le plus souvent des élites locales. Les leaders sont célébrés, tels Ho Chi Minh au Vietnam, Bourguiba en Tunisie ou Gandhi en Inde. B. Écrire l'histoire du point de vue des colonisés. L'histoire des colonisés a longtemps été difficile à écrire. Les indigènes, souvent illettrés, ont laissé peu d'archives écrites. La plupart des sources étaient celles de l'ancien colonisateur ou des élites locales. Une nouvelle démarche historique naît dans le monde indien autour du groupe d'historiens dit des Subaltern Studies. Dans les années 1980-1990, ce collectif s'oppose à l'histoire héroïque des élites indiennes comme à l'histoire coloniale dite traditionnelle. Il s'intéresse aux formes de contestation et de résistance des masses indiennes à qui il veut redonner une voix. 3. Vers une histoire et des mémoires communes et apaisées des décolonisations. A. Le difficile consensus des mémoires. En France, les mémoires sont encore douloureuses. Les harkis, par exemple, ont été rejetés par l'Algérie lors de l'indépendance, qualifiés de traîtres. Accueillis en France dans des conditions très précaires, ils y ont aussi fait l'objet de discriminations. Quant aux rapatriés, ils peinent à faire reconnaître historiquement le traumatisme de leur déracinement. La mémoire des violences coloniales est encore très vive. Si le 8 mai 1945 est par exemple en France célébré comme le jour de la capitulation allemande, en Algérie, il correspond à une immense répression. Le massacre du 17 octobre 1961 à Paris, qualifié de crime d'État en Algérie, est quant à lui aujourd'hui reconnu en France, mais sans que soient mentionnés explicitement les responsables. Les pays européens sont confrontés à des demandes de réparation. En 2013, des Kényans obtiennent du Royaume-Uni des excuses et des réparations pour les tortures subies dans les années 1950. En 2005, l'Algérie avait exigé des excuses de la part de la France pour le génocide de la colonisation. B. Écrire une histoire commune. L'écriture d'une histoire commune est difficile. Elle appelle une coopération entre universités et gouvernements pour les archives. En Algérie, si des voix se font entendre contre la mainmise de l'État sur l'histoire officielle, les archives de la guerre d'indépendance ne sont pas toujours facilement accessibles. Certains sujets restent tabous, comme celui des harkis. Depuis quelques années, des historiens tentent de poser les bases d'un dialogue. Mais cette écriture n'est possible qu'à la condition que le travail des historiens soit indépendant des pressions des États et des groupes mémoriels, aussi bien dans les anciennes colonies que dans les anciennes métropoles.